En 11 de l'ère des bunkers. Vitesse luminique 2. La dernière destination de Cao Bin et de Cheng Xin était Halo, une cité spatiale de taille moyenne. Par moyenne, on entendait les cités dont la superficie était comprise entre 50 et 200 kilomètres carrés. La plupart du temps, elles se mêlaient aux archipels des grandes cités spatiales, mais deux d'entre elles, Halo et Vitesse Luminique 2, se tenaient à la lointaine périphérie des grands ensembles de Jupiter, presque en dehors de la zone de protection de l'ombre de la planète. Avant de parvenir jusqu'à Halo, la capsule spatiale survola Vitesse Luminique 2. Cao Bin expliqua à Cheng Xin que ce lieu avait autrefois été une cité scientifique, l'une des deux bases de recherche du projet Champ Noir sur la réduction de la vitesse de la lumière. Mais elle était maintenant déserte et abandonnée. Cheng Xin se montra très intéressé pour voir la ville et Cao Bin accepta à contre-cœur de diriger la capsule dans sa direction. « Nous l'observerons de l'extérieur, il vaut mieux ne pas y entrer, » dit-il. « Est-ce dangereux ?»« Oui. Mais nous sommes bien entrés dans Pacifique 1. »« C'est différent. Vitesse Luminique 2 est inhabitée, c'est une cité fantôme. En tout cas, c'est ce que certains disent. » À mesure que la capsule s'approchait, Cheng Xin réalisa que la ville était en effet une ruine. Elle n'était pas en rotation et paraissait gravement endommagée. On y voyait la trace de nombreuses fissures et, en certains endroits, la coque révélait une partie de sa structure interne. En découvrant cette ruine éclairée par les faisceaux des projecteurs de la capsule, Cheng Xin éprouva à la fois de l'émerveillement et de la crainte. Cette cité ressemblait à une baleine échouée. La ville avait quitté depuis des lustres et il ne lui restait plus que les os et une peau légèrement craquelée. Cheng Xin avait le sentiment que ce qui se déployait devant elle était un vestige plus ancien encore que l'acropole d'Athènes et qu'il renfermait davantage de secrets. La capsule approcha lentement d'une grande fissure qui faisait plusieurs fois la largeur de l'appareil. Les poutres métalliques étaient courbées et torsadées, ouvrant un chemin vers l'intérieur. À travers la fissure, Cheng Xin put apercevoir le sol de la cité, mais il était entièrement nu. La capsule spatiale avança sur une certaine distance, puis elle s'arrêta, et les faisceaux de ses projecteurs balayèrent la ville. Tout ce que Cheng Xin remarqua fut le vide qui régnait autour d'elle. Non seulement on ne voyait pas la moindre trace d'une habitation ou d'un quelconque objet, mais il n'y avait ici aucun indice d'un ancien peuplement humain. L'armature métallique de la cité saillait depuis le sol. « Est-ce une coquille vide ?» demanda Cheng Xin. « Non. » Cao Bin observa Cheng Xin pendant quelques secondes, comme s'il essayait de rassembler le courage nécessaire pour lui en dire plus. Il éteignit alors les projecteurs de l'appareil. Cheng Xin ne vit au début qu'une chape d'obscurité. Seule la lueur des étoiles filtrait à travers la fissure d'où ils étaient entrés. C'était comme si elle regardait un ciel nocturne à travers les lézardes d'un toit. Cependant, quand ses yeux se furent habitués à la pénombre, elle découvrit que le noir n'était pas total. Au loin vacillait une étrange lumière bleue. Un frisson parcourut Cheng Xin. Elle essaya de se calmer et de chercher la source de cette émission lumineuse. Ce point bleu se trouvait au centre de la cité et sillait de façon irrégulière, comme s'il clignait de l'œil. L'intérieur de la ruine se révélait toutes les quelques secondes au rythme des clignotements du point lumineux. La surface qui avait paru jusqu'ici à Cheng Xin complètement déserte s'animait d'ombres étranges, mais ce n'était qu'une plaine nocturne désolée, illuminée par de lointains éclairs à l'horizon. Cette lumière est émise par de la poussière spatiale qui tombe dans le trou noir, fit Cao Bin en pointant la direction de la source lumineuse, comme s'il voulait rassurer Cheng Xin.
Un trou noir, là-bas?
Oui, à une distance d'à peine 5 kilomètres de nous. Un mini-trou noir, avec un rayon de Schwarzschild de seulement 9 picomètres et une masse équivalente au satellite LEDA. Et dans cette phosphorescence bleu sombre, Cao Bin narra à Cheng Xin l'histoire de Vitesse Luminique 2 et de Gao Wei. Les recherches sur la réduction de la vitesse de la lumière dans le vide avaient été lancées presque simultanément au chantier des bunkers. Comme il représentait la deuxième voie de secours pour l'humanité, la communauté internationale avait investi dans ce projet d'énormes ressources. Une cité spatiale entièrement dédiée à ces recherches avait ainsi vu le jour au sein de l'archipel des cités saturniennes, Vitesse Luminique 1. Mais aucune avancée n'avait été obtenue en 6 décennies, pas même dans le domaine des théories fondamentales. Réduire la vitesse de la lumière à travers un médium n'était pourtant pas particulièrement difficile. Bien plus tôt, en 2008 de l'ère commune, on avait réussi à réduire une impulsion lumineuse à la vitesse inimaginable de 17 mètres par seconde. Mais la nature de cette expérience menée en laboratoire était bien différente de celle d'une réduction de la vitesse luminique dans le vide. L'expérience de 2008 avait simplement consisté à permettre aux atomes du médium d'absorber les photons puis de les émettre à nouveau, ce qui ralentissait ainsi la propagation de l'onde lumineuse sans pour autant changer la vitesse de la lumière standard. Elle n'était donc d'aucune aide dans la perspective du plan champ noir. La vitesse de la lumière dans le vide était l'une des constantes fondamentales de l'univers, et changer cette constante revenait donc à bouleverser les lois de celui-ci. C'est pourquoi le projet exigeait que soit réalisée une percée majeure dans le domaine de la physique fondamentale, ce qui était bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Après 60 ans, le seul résultat concret de ces recherches avait été la création de l'accélérateur de particules circumsolaires. Cette construction avait néanmoins mené au succès du plus grand sous-projet du plan champ noir, celui de la création d'un trou noir. Les scientifiques avaient essayé toutes les techniques physiques connues jusqu'au plus radical pour altérer la vitesse de la lumière. Ils avaient entre autres produit le plus grand champ électromagnétique artificiel de l'histoire. Cependant, pour exercer un impact réel sur la propagation de la lumière dans le vide, le moyen le plus efficace était de créer un champ gravitationnel. Il était toutefois difficile de générer un champ de gravité suffisant en laboratoire. Le seul recours possible était donc de créer un trou noir. Or, l'accélérateur circumsolaire était justement capable de produire des mini-trous noirs. Gao Wei se retrouva à la tête du projet de création d'un trou noir. Cao Bin avait eu l'occasion de collaborer avec lui pendant plusieurs années. Il le décrivit en des termes qui révélaient toute la complexité de ce personnage. Gao Wei souffrait d'une sévère forme d'autisme. « Je ne parle pas de ce genre de génie, préférant rester seul. Il était vraiment atteint d'un genre de pathologie mentale. Il était toujours en décalage par rapport aux autres et avait des problèmes de communication avec tout le monde. Il n'avait jamais eu aucune relation avec une femme. Il n'y avait bien qu'à cette époque que quelqu'un comme lui pouvait connaître une telle réussite professionnelle. Mais tous ses collègues se servaient de lui comme d'une simple batterie atomique de grande puissance. » Il souffrait terriblement de ses troubles et essayait de lutter contre sa nature, ce en quoi il était différent de beaucoup d'autistes. Je crois que c'était au début de l'an 8 de l'ère de la diffusion. Il s'est lancé dans des recherches théoriques sur la réduction de la vitesse de la lumière. Il y a consacré toute son énergie et il s'est produit chez lui comme une empathie étrange. Il avait la sensation que la vitesse de la lumière était liée à son état. Et qu'en changeant celle-ci, il pourrait aussi se changer lui-même. Mais la vitesse de la lumière est probablement la donnée la plus immuable de tout l'univers. Les recherches sur la réduction de la vitesse luminique étaient autant de tortures ne produisant aucun résultat. Les humains faisaient flèche de tout bois pour exercer une influence sur la lumière. Ils l'attaquaient, la distordaient, la fracassaient, la démembraient, l'écartelaient, la détruisaient même. Mais tout ce qu'on pouvait obtenir, c'était un léger changement de sa fréquence dans le vide. Sa vitesse, elle, demeurait inaltérable, comme un mur infranchissable. Pendant ces quelques décennies, le désespoir a gagné tant les théoriciens que les expérimentateurs. On racontait même que s'il existait vraiment un créateur intelligent, la vitesse de la lumière était probablement la seule chose qu'il avait réellement soudée dans son chantier. Pour Gao Wei, l'abattement était encore plus grand. Quand je suis entré en hibernation, il avait déjà plus de 50 ans et il n'avait jamais eu de relation amoureuse. Était née chez lui l'illusion que son destin était aussi résistant que la vitesse de la lumière dans le vide. Il était devenu encore plus renfermé et solitaire. Le projet de création d'un trou noir avait été lancé au début de l'ère des bunkers et 11 ans s'étaient déjà écoulés. Pour tout dire, les initiateurs du projet eux-mêmes n'étaient pas très optimistes. Tant du point de vue des calculs théoriques que des observations astronomiques, tout semblait indiquer que les trous noirs non plus n'étaient pas capables de modifier la vitesse de la lumière. Ces démons cosmiques pouvaient tout au plus user de leur champ gravitationnel pour exercer une influence sur la trajectoire d'un faisceau lumineux et sur sa fréquence, mais ils n'étaient pas en mesure de changer sa vitesse. Pour poursuivre les recherches sur le champ noir, il fallait aménager un environnement empli de champs gravitationnels très puissants que seuls des trous noirs pouvaient générer. Une autre raison justifiait aussi cette approche. La nature même d'un champ noir consistant en un grand trou noir à vitesse luminique réduite, on obtiendrait peut-être des données intéressantes lors de l'observation de mini-trous noirs artificiels. L'accélérateur circumsolaire était capable de produire des mini-trous noirs rapidement, mais ceux-ci s'évaporaient tout aussi vite. Pour que les trous noirs soient suffisamment stables, il fallait les extraire de l'accélérateur dès leur création et les reverser aussitôt sur l'EDA. L'EDA était le plus petit satellite de Jupiter. Son rayon était seulement de 8 km. Ce n'était rien d'autre qu'un gros caillou. Avant la conception des trous noirs, on avait modifié l'orbite de cette lune en la forçant à devenir à son tour un satellite du Soleil, orbitant de façon parallèle à Jupiter, à l'instar des cités spatiales. La différence avec les cités était toutefois que l'EDA se trouvait ici même, au point de Lagrange L2 du système Jupiter-Soleil. On pensait alors pouvoir le maintenir à une distance stable de la planète sans avoir besoin de réajuster sans cesse sa position. Jusqu'à maintenant, l'EDA reste encore l'objet le plus massif que les humains ont jamais réussi à déplacer dans l'espace. Après que le mini trou noir eut été déplacé sur l'EDA, il a commencé à s'élargir en absorbant une grande quantité de matière. Dans le même temps, les puissantes radiations provoquées par la matière aspirée ont fait fondre la roche alentour. Très vite, cette lune d'un rayon de 8 km a entièrement fondu. Et cette roche en forme de pomme de terre s'est transformée en boule de magma rouge. Elle a rétréci petit à petit et est devenue de plus en plus brillante jusqu'à disparaître dans un dernier éclair aveuglant. Les données d'observation recueillies ont montré qu'outre une petite portion de matière dispersée par les radiations, la majeure partie de la masse de l'EDA avait été absorbée par le trou noir. Celui-ci s'est stabilisé et son rayon de Schwarzschild, c'est-à-dire le rayon de son horizon, est passé de la taille d'une particule élémentaire à 9 picomètres. Une cité spatiale a alors été construite autour du trou noir, vitesse luminique 2. Le trou noir était suspendu au milieu de la ville vide et communiquait directement avec l'espace. La cité n'était pas non plus en rotation. C'était en fait un énorme récipient construit pour contenir le trou noir. Le personnel et l'équipement de la cité étaient entièrement dédiés à son étude. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs années. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une étude était menée sur un spécimen de trou noir dans des conditions de laboratoire. Les chercheurs ont obtenu un grand nombre de résultats qui ont fait avancer tant la physique théorique que la cosmologie, mais ils n'étaient d'aucune aide pour réduire la vitesse de la lumière dans le vide. 6 ans après le début des recherches sur l'échantillon du trou noir, Gao Wei a disparu. Selon le rapport officiel de l'Académie mondiale des sciences, il a été accidentellement aspiré par le trou noir lors d'une expérience menée sur le spécimen. Mais tous ceux qui ont un minimum de connaissances scientifiques savent qu'il y a peu de chances que Gao Wei se soit réellement fait happer par le trou noir. Si les trous noirs sont effectivement des pièges capables d'absorber jusqu'à la lumière, ce n'est pas tant en raison de leur puissance gravitationnelle, même si les trous noirs géants qui naissent d'un effondrement gravitationnel possèdent de telles facultés, mais plutôt à cause de la densité de leur champ gravitationnel.
De loin, la gravité totale est similaire à la gravité d'une quantité de matière ordinaire possédant la même masse. Si l'effondrement du Soleil entraînait la formation d'un trou noir, la Terre et les autres planètes continueraient à tourner sur leur orbite originelle et ne seraient pas aspirées par celui-ci. Il n'y a que dans un périmètre extrêmement proche du trou noir que la gravité produit son étrange effet. Dans la cité Vitesse Luminique 2, un filet de protection d'un diamètre de 5000 mètres avait été installé autour du trou noir. Il était formellement interdit à quiconque de le franchir. Le diamètre originel de l'EDA étant de 8000 mètres, la gravité du trou noir à cette distance était donc sensiblement la même que lorsqu'il était sur le satellite. L'attraction était ainsi extrêmement faible, et ceux qui se tenaient à la distance réglementaire étaient presque en apesanteur. Par ailleurs, il leur était possible de s'échapper sans peine grâce aux propulseurs dont leur combinaison spatiale était pourvue. Par conséquent, il est peu probable que Gao Wei ait été aspiré. Après la stabilisation du trou noir, Gao Wei a commencé à éprouver pour lui une fascination sans bornes. Après tant d'années passées à lutter contre la vitesse de la lumière et sans parvenir à altérer d'un iota ses 300 000 km par seconde, il était impatient de rompre avec un profond sentiment d'échec. La vitesse de la lumière était l'une des constantes fondamentales de l'univers, et il ressentait désormais pour les lois de la physique autant de crainte que de haine. Mais cette petite chose qu'il avait sous les yeux avait été capable de réduire le satellite LEDA à 9 picomètres. À l'intérieur de cet horizon, au cœur de cette singularité de l'espace-temps, les lois de l'univers étaient mises en échec. Gao Wei grimpait souvent au filet de protection et pouvait contempler pendant des heures le trou noir, 5 kilomètres plus loin. Il le regardait briller de sa lueur lugubre, comme nous le faisons maintenant. Il prétendait même parfois que le trou noir lui parlait, qu'il pouvait comprendre les messages transmis par son scintillement. Il n'y a eu aucun témoin de la disparition de Gao Wei dans le trou noir, et s'il y a eu un enregistrement, il n'a jamais été rendu public. Il était l'un des principaux physiciens à étudier le trou noir et faisait partie de ceux qui possédaient le mot de passe donnant l'accès aux spécimens. Je suis sûr qu'il s'en est approché jusqu'à un point où l'attraction du trou noir ne lui a pas laissé la possibilité de repartir. Peut-être voulait-il observer de plus près ce phénomène qui le captivait tant, ou bien peut-être a-t-il pris la décision de fuir le monde et de rejoindre cette singularité sur laquelle les lois de l'univers n'avaient aucune prise. Ce qui s'est passé ensuite a été très étrange. Après avoir découvert la disparition de Gao Wei, les scientifiques ont voulu observer le trou noir avec un microscope télécommandé et ils se sont aperçus que dans l'horizon des événements du trou noir, c'est-à-dire à la surface de cette minuscule sphère de 9 picomètres, se profilait une silhouette. Celle de Gao Wei traversant l'horizon. Selon la théorie de la relativité générale, un observateur extérieur aurait dû voir l'horloge près de l'horizon ralentir et la chute de Gao Wei dans le trou noir s'opérer avec une lenteur infinie. Mais dans le référentiel de Gao Wei, celui-ci avait déjà franchi l'horizon. Plus étrange encore, les proportions de cette silhouette étaient tout à fait normales. Cela s'expliquait peut-être par la taille minuscule du trou noir, mais les forces de marée ne semblaient avoir aucun effet sur son corps. Il avait été compressé à une taille minuscule, mais la courbure de l'espace n'en était pas moins importante. C'est pourquoi plusieurs physiciens en sont arrivés à la conclusion que la structure corporelle de Gao Wei n'avait peut-être pas été disloquée. Autrement dit, il était probablement encore en vie. Pour cette raison, la compagnie d'assurance a refusé de payer. Et ce même si, dans son propre référentiel, Gao Wei avait bien franchi l'horizon et était donc mort. Le contrat d'assurance était établi sur le référentiel de notre monde et, ici, nul n'était capable de prouver que Wei était bien décédé. Il n'a même pas été possible d'organiser une cérémonie funéraire, car la compagnie d'assurance a décrété que rien ne serait fait tant qu'on n'aurait pas le fin mot de l'histoire. Mais à l'heure qu'il est, Gao Wei est encore en train de tomber dans le trou noir et l'histoire n'est pas finie. Elle ne finira jamais. Une femme a intenté une action en justice, exigeant de l'Académie mondiale des sciences qu'elle mette immédiatement un terme à toutes les recherches portant sur le trou noir. À ce stade, les observations lointaines du spécimen ne pouvaient rien apporter de plus. Pour aller plus loin, il fallait manipuler directement le trou noir, en envoyant par exemple des objets à l'intérieur, afin de générer une grande quantité de radiation. Celle-ci provoquerait cependant de graves perturbations sur les environs de son horizon, et dans l'éventualité où Gao Wei était encore en vie, ses expériences mettraient sa vie en danger. La femme a perdu son procès, mais pour des raisons diverses et variées, les recherches sur le trou noir ont été abandonnées. Vitesse Luminique 2 a alors été désertée. Il n'y a maintenant plus rien à faire, sinon attendre que le trou noir s'évapore, et selon les calculs effectués, il faudra encore 50 ans. Nous avons toutefois appris une chose. Une femme était tombée amoureuse de Gao Wei. C'est triste qu'il n'en ait jamais rien su. Depuis, cette femme revient souvent ici. Elle envoie des messages par ondes radio ou par faisceau de neutrinos dans le trou noir. Elle a même rédigé une déclaration d'amour en grand caractère sur une pancarte qu'elle a déposée devant le filet. Je ne sais pas si Gao Wei l'a vue de là où il est. Mais si l'on s'en tient à son référentiel, il est déjà censé être entré dans la singularité. Bref, cette histoire est bien embrouillée, comme tu peux le voir. Cheng Xin regarda la phosphorescence bleutée qui émergeait des ténèbres régnant sur les décombres. Elle savait à présent qu'il s'y trouvait peut-être un homme, un être voué à sombrer éternellement dans une interface en stase. Cet homme était peut-être encore vivant du point de vue de ce monde, mais mort dans le sien. Que de destins étranges et de vies inimaginables. À cet instant, elle eut l'impression que la lumière bleue du trou noir lui transmettait réellement un message, comme s'il lui faisait un clin d'œil. Cheng Xin détourna son regard du centre de la cité. Son esprit était aussi vide que cette ruine spatiale. Doucement, elle dit à Cao Bin, « Partons pour Halo. »